Bonsoir Marie Sorbier.
Bonsoir Arnaud. Depuis hier, sur Netflix, on peut visionner la mini-série documentaire Chambre 2806, réalisée par Jalil Lesper, qui revient sur l'affaire qui a vu chuter les espoirs et ambitions de Dominique Strauss-Kahn en 2011. 4 épisodes pour revivre l'enchaînement des événements du Sofitel au Carlton, avec notamment le témoignage très attendu de Nafissatou Diallo. Nous sommes ce soir avec la journaliste, grand reporter au Monde, Raphaël Baquet. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Que pensez-vous de ce que sous-tend ce documentaire, à savoir que l'affaire DSK peut être vue rétrospectivement comme le premier acte du mouvement MeToo?
Je crois qu'en fait, cette affaire DSK, elle est plutôt le dernier acte avant MeToo. Parce que on voit d'abord une affaire planétaire, ou en tout cas qui a eu un retentissement au moins dans tout l'Occident. Et les images ont été diffusées dans le monde entier. On voit qu'elle a été précéder d'autres affaires qui ont réémergé à cette occasion, à l'occasion de l'accusation d'agression au sein du Sofitel de Nafissatou Diallo. On voit une autre affaire qui émerge ensuite. Or, tout se termine par des non-lieux, en tout cas pour Dominique Strauss-Kahn. Il est probable que, effectivement, si l'affaire MeToo était passée par là, Nafissatou Diallo, qui est la femme de chambre qui accusait Dominique Strauss-Kahn de l'avoir agressée à l'hôtel Sofitel, n'aurait pas été discréditée comme elle l'a été. Il est probable aussi que Tristan Bannon, qui elle aussi accusait Dominique Strauss-Kahn de l'avoir agressée quelques années plus tôt, n'aurait pas été traitée de folle. Et que Mounia et les prostituées qui, elles aussi, racontaient que Dominique Strauss-Kahn les avaient forcées, alors même qu'elles étaient payées par ailleurs pour participer à des soirées, elles n'auraient pas non plus été délégitimées de leurs plaintes parce qu'elles étaient prostituées. Donc c'est vrai qu'on voit que l'époque a considérablement changé, au fond, en quelques années, et que cette affaire, elle raconte l'ancien monde, celui d'avant MeToo.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est flagrant de constater qu'en moins de 10 ans, nos réactions et nos acceptations ont changé et que les discours tenus à l'époque sur le comportement, notamment de Dominique Strauss-Kahn, on entend qu'on le qualifie de Don Juan ou toute cette thématique-là, aurait du mal à être prononcée aujourd'hui?
C'est vrai que à toute cette époque, on ne parle de Dominique Strauss-Kahn que comme d'un séducteur. Ce qu'il est d'ailleurs aussi, c'est-à-dire qu'il peut être les deux d'une certaine façon. Il peut être un homme qui a séduit et réussi à séduire beaucoup de femmes, et puis il peut être un homme aussi qui a dérapé, agressé, et c'est possible. Et à cette époque, on ne l'imagine pas. On met tout cela sous le compte de ses succès féminins, succès liés à son charisme, à son pouvoir aussi, à sa séduction personnelle, à son charme. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'examinerait plus avant la complexité, les contradictions aussi d'un personnage, d'une personnalité. On peut être Janus, avoir deux visages. On peut être un séducteur et on peut être éventuellement un agresseur.
Si le documentaire n'est pas vraiment à charge, il s'attache pourtant à mettre à valeur notamment l'attitude d'Anne Sinclair, les femmes fortes qui parlent de leur humiliation d'un côté et la femme forte qui soutient celui qui l'humilie de l'autre. Est-ce que cette mini-série de Jalil Lesper peut être vue comme une galerie de portraits de femmes finalement?
Les femmes sont particulièrement intéressantes dans ce documentaire. Effectivement, d'abord, il y a plusieurs types de caractères. Anne Sinclair, vous l'avez dit, qui est à l'époque au sommet aussi de sa popularité et de sa puissance. C'est une icône, c'est une journaliste extrêmement connue. Et elle traverse ce moment aux côtés de son mari. Au fond, le seul élément de comparaison qu'on a à l'époque, c'est Hillary Clinton, qui, de la même façon, a soutenu son mari. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, après MeToo, on aurait moins considéré que c'était une preuve de sainteté ou de force de caractère. Moi aussi, je pense qu'il faut d'ailleurs considérer ce qu'a fait Anne Sinclair de façon très nuancée. Elle a à la fois soutenu son mari, elle a d'ailleurs payé en grande partie sa défense, et puis finalement, elle a divorcé parce que c'était trop difficile. Ce qui frappe à la fin de ce documentaire, c'est que, au fond, il y a 3 femmes qui pleurent. Nafissatou Diallo, Tristan Bannon et Mounia, je ne prononce que son prénom parce qu'elle ne veut pas donner son nom, mais qui est la prostituée qui accuse Dominique Strauss-Kahn d'avoir agressé dans l'affaire du Carlton. Ces 3 femmes, on voit qu'elles terminent cette histoire, au fond, marquée, et elles vont porter toute leur vie, en tout cas, ce qu'elles ont subi ou ce qu'elles disent avoir subi. Et Dominique Strauss-Kahn, il termine au contraire incroyablement libre. Il mène la vie qu'il voulait mener. Il a eu des non-lieux partout. Il y a un décalage entre effectivement le sort des protagonistes, entre le sort des femmes victimes, ou qui disent l'être en tout cas, et puis le sort de Dominique Strauss-Kahn, qui est accusé d'avoir agressé et qui a été blanchi par la justice.
Ce que l'on voit bien aussi dans ce documentaire, c'est la différence de traitement ou de vision entre ce que vous disiez, la figure du séducteur aux États-Unis et en France.
Alors évidemment, c'est vrai que tous les clichés culturels, si je puis dire, s'imposent dans une histoire comme ça. Et quand l'affaire du Sofitel a éclaté, les Américains ont d'abord mis cela sur le fait d'une forme de vision de la sexualité, du libertinage ou de la séduction à la française. Après, on a vu qu'avec l'affaire Weinstein, que tout ça pouvait être très largement partagé, quels que soient les pays. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les Américains étaient d'abord surpris par la façon dont les Français continuaient en tout cas pendant quelques semaines, à défendre Dominique Strauss-Kahn sous le versant « c'est un séducteur et au fond, ce n'est pas un violeur ». Aujourd'hui, tout ça est quand même, c'est beaucoup aplani d'une certaine façon, et on partage à la fois le même regard, un regard plus juste, je pense, sur ce qui se peut se passer, c'est-à-dire faire la différence entre ce qui relève de la séduction, du charme et de la sexualité libre, et puis ce qui relève d'une agression potentielle.
Merci beaucoup, Raphaël Baquet.
Et merci à vous, Marie Sorbier.